France Culture.
Bienvenue à tous, prenez place pour cette deuxième partie des Midi de Culture. À 13h, je recevrai la plasticienne Hélène Delprat. Mais avant, c'est l'heure de retrouver le Point Culture. Alors, quoi de neuf dans le monde culturel aujourd'hui, Nicolas Herbeau?
Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes. Ce midi, je vous raconte l'histoire d'une correspondance intime et érotique, longtemps gardée secrète et découverte par hasard dans le grenier de la bibliothèque de Besançon. Correspondance Marie, entretenue en 1872 par le peintre Gustave Courbet, de retour dans son doux natal après la Commune de Paris. Entretenu donc avec une dame de la bonne société française, une centaine de missives aux termes crus et aux descriptions très explicites que le public peut enfin découvrir à l'occasion d'une exposition à Besançon. C'est le dossier du jour. Et j'accueille dans le Point Culture ce midi Pierre-Emmanuel Guilleret. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes conservateur à la bibliothèque municipale de la ville de Besançon, en charge des fonds et des archives, et vous êtes donc l'une des quatre personnes qui ont découvert cette correspondance du peintre Gustave Courbet. Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances vous avez fait cette découverte?
Oui, alors c'était de manière assez fortuite. On était en train de préparer le déménagement de la bibliothèque qui est prévu pour dans 3 ans. Et on a commencé à ranger les greniers depuis un certain temps, et il y avait pas mal de travail. Et là, comme on arrive un peu au bout, on y voit plus clair, et on a remarqué une petite pile de lettres, vraiment pas très grosse, avec une note sur le dessus qui avait l'air vraiment intéressante, qui disait que c'était des lettres d'une personnalité célèbre du 19e siècle, et des lettres scabreuses écrites à une dame. Alors ça commençait bien.
Donc il y a 116 lettres en tout, une correspondance assez copieuse. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler, puisque vous l'avez déjà fait, mais quelle est la nature de cette correspondance?
Alors, on peut dire que c'est une correspondance amoureuse. En tout cas, elle se présente comme ça si on lit les lettres dans l'ordre, sans savoir comment ça s'est fini. Ça s'est pas très bien fini. Et c'est une correspondance assez passionnée entre Gustave Courbet et une certaine Mathilde Carly de Svatzema, qui a 20 ans de moins que lui. Donc, elle a 33 ans, lui, il a 53 ans à ce moment-là.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette dame de la bonne société parisienne?
Alors, on a mené notre enquête parce qu'elle n'est pas très, très connue. Les spécialistes de Courbet la connaissaient déjà parce que dans les biographies de Courbet, on voit son nom apparaître. On savait juste qu'il y avait eu une histoire avec Courbet qui s'était pas très bien finie, mais on connaissait pas les détails. Donc, on a mené notre enquête et ce qu'on a trouvé, et l'enquête est loin d'être finie, c'est que c'était une femme seule à ce moment-là qui venait juste d'être quittée par son mari. Elle n'avait pas d'enfant. Et qu'elle s'est lancée dans les escroqueries sentimentales par lettre avec des personnalités célèbres de l'époque. Mais ça, on l'a appris après. Quand on lit la correspondance, on s'en rend pas compte.
Oui, c'est ça. C'est elle qui va prendre contact avec le peintre en 1872. Elle contacte le peintre et elle l'appâte en quelque sorte au fil des courriers. Ils ne vont jamais, jamais se rencontrer.
Non, alors il en est souvent question, mais à chaque fois la rencontre est repoussée par Gustave Courbet pour des raisons de risque de scandale ou parce qu'il est trop occupé ou parce qu'il a peur d'être déçu. Il lui écrit « Notre correspondance est tellement formidable que finalement je me demande si je préfère pas la correspondance à la réalité, les fantasmes à la réalité ». Et à la fin, il commence à avoir des doutes sur elle parce qu'il y a des amis à lui qui le mettent en garde. Et donc finalement, il préfère couper court et ne pas la rencontrer du tout.
Et de fantasmes, il est beaucoup question dans ses lettres. Est-ce que vous pouvez nous lire quelques extraits, nous dire exactement ce qu'ils s'écrivent, ces amants?
Oui, volontiers. Alors je vais prendre un passage où Courbet écrit à la manière d'un peintre. Et je pense que les auditeurs vont tout de suite penser à un célèbre tableau de Gustave Courbet. Alors, donc ouvrez les guillemets, c'est Gustave Courbet qui écrit à Mathilde. « Quand je te tiendrai, mon chéri, sais-tu ce que je veux faire? Je veux faire un portrait scrupuleux de ton grand con dans sa couleur merveilleuse. Je veux le faire sur un panneau qui doublera ma boîte de peinture. Je l'aurai toujours avec moi. Il enchantera mes rêves, où que je sois, qu'il pleuve ou que le ciel soit bleu, je l'aurai avec moi. Il sera dans un coulissant au fond de ma boîte de peinture. » Nous le ferons ouvert ou fermé dans les moindres détails. Nous ferons sa motte dorée avec ses frisettes, ses poils qui s'échappent. La naissance de tes belles cuisses, de ton ventre blanc et rebondi, dans tous ces tons chauds, rosés incarnat opale dans toutes les nuances qui lui donnent la jouissance et qui l'inspirent. Ferme les guillemets.
On pense évidemment tout de suite à l'un des tableaux les plus célèbres de Gustave Courbet, L'origine du monde. Vous dites que ces courriers, justement, éclairent la personnalité du peintre ?
Oui, ça confirme des choses que les chercheurs avaient déjà décelées, soit dans ses tableaux, soit dans le reste de sa correspondance. Mais on n'avait pratiquement aucune lettre de Gustave Courbet à ses maîtresses, et en tout cas pas de lettre érotique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de totalement inédit. Et donc, on va trouver vraiment là, écrit noir sur blanc de la main de Gustave Courbet, des choses qui confirment des hypothèses, ou qui les infirment d'ailleurs, certaines hypothèses des chercheurs sur Courbet.
Comment est-ce qu'on prépare une telle exposition pour voilà, les visiteurs ? Est-ce qu'on prend des précautions pour exposer ces mots ?
En fait, on s'est plongé avec deux autres collègues de la bibliothèque, Ludovic Carré et Bérénice Hardwich, dans la transcription des lettres, puisque ça représente à peu près 500 pages. Donc, ça nous a pris plusieurs mois. Et c'est vraiment sur la base de ce matériau qu'on a construit l'exposition, en voulant retransmettre de manière assez fidèle cette histoire qui est incroyable par beaucoup d'aspects, et notamment par l'aspect sexuel. Il y a beaucoup, beaucoup de descriptions sexuelles très explicites dans la correspondance. Donc c'est ça qui a fait l'aspect de scandale, hein, qui a fait parler de cette découverte. Et donc on a voulu laisser le choix aux visiteurs de lire ou pas les passages concernés. Et donc il y a une petite loupe rouge qui permet de décoder les passages concernés quand on visite l'exposition.
Est-ce que vous avez hésité à rendre publique cette correspondance intime, cette correspondance personnelle ?
Alors j'avoue qu'on s'est pas du tout posé la question de notre côté. C'est une question qui nous a été posée après par des gens extérieurs à la profession. Donc nous, on n'a pas du tout hésité parce que ça correspondait tellement bien à l'image que le public se fait de Courbet à cause du tableau L'origine du monde, qu'on ne s'est pas dit une seule seconde que ça pourrait être un préjudice pour l'image de Courbet que de révéler ses lettres. Donc sur le fond, c'est ça la raison qui fait qu'on souhaite les faire connaître. Et puis, l'éventuel préjudice qui aurait pu être, par exemple, mis en avant par des héritiers de Courbet, ça aurait été que ça porte atteinte à la réputation du peintre. Donc, il nous a semblé que c'était pas du tout le cas. Et c'est pour ça qu'on a souhaité les publier de manière intégrale. Ce sera le cas chez Gallimard à partir du 10 avril. Donc, les 116 lettres complètes pour les gens qui veulent vraiment lire l'histoire en entier.
Courbet, lettre cachée, histoire d'un trésor retrouvé jusqu'au 21 septembre prochain à la Bibliothèque d'études et de conservation de Besançon. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Guilleret.
Merci à vous, bonne journée.
À la une du Point Culture également, on connaît le nom du prochain maître de cérémonie du Festival de Cannes.
Pour sa 78e édition, l'organisation a chargé l'acteur Laurent Lafitte de présenter l'ouverture et la clôture du festival. C'est désormais un habitué puisqu'il avait déjà tenu ce rôle en 2016. Rendez-vous donc du 13 au 24 mai sur la Croisette. La présidente du jury, eh bien, ce sera l'actrice Juliette Binoche.
ONG et peuples autochtones plaident pour la préservation de leur patrimoine culturel dans les océans.
Un texte sur le patrimoine culturel subaquatique est en discussion au sein de l'Autorité internationale des fonds marins en Jamaïque. Il pourrait ainsi permettre la suspension des activités d'extraction minière en cas de découverte de restes humains, d'objets ou de sites archéologiques. Des peuples autochtones plaident aussi pour inscrire dans le code minier leur patrimoine immatériel comme les connaissances de la navigation traditionnelle, les pratiques spirituelles liées à l'eau. Marie, c'est le cas de ce peuple canadien dont le lien avec la mer passe par les saumons qui remontent les rivières.
Le musée des Beaux-Arts de Brest va devoir fermer ses portes les 4 prochaines années.
Cet hiver déjà, des moisissures découvertes sur des œuvres avaient entraîné la fermeture temporaire de l'établissement. Leur analyse a permis de découvrir 18 tableaux sur 190 touchés par cette infestation fongique. Pour éviter la propagation, le musée a donc installé des déshumidificateurs.
C'est
compliqué à dire. Et des ventilateurs, ça c'est plus simple. Ce qui rend le musée inaccessible, en cause le béton du bâtiment peu propice à l'aération et sa verrière qui provoque des chocs thermiques. Les œuvres décontaminées seront à nouveau exposées en 2029. Faudra être patient dans un tout nouveau pôle de conservation.
Et pour finir, Nicolas, le dessin est à l'honneur dans la capitale cette semaine.
Et d'abord au Palais Brongniart, pour le Salon du Dessin, 39 galeries viennent présenter dès aujourd'hui des œuvres de la Renaissance à la période contemporaine. Ensuite, vous pourrez aller au Carreau du Temple à partir de demain. Drawing Art Paris se concentre sur le dessin contemporain, comme les grands fluos de Valentine Gardiennet ou les fresques antico-érotiques, décidément, de Alireza Shojaian. 300 artistes sont exposés jusqu'à lundi. On vous met toutes les infos sur le site du Point Culture, sur franceculture.fr, Marie.
Merci beaucoup Nicolas, on vous retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. Il est 13h tout pile et vous êtes sur France Culture.